Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue dans la saison 3 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous la forme d'une interview avec un ou une intervenante spécialisée d'un thème choisi. Dans la vie, je fais de la gestion de projet. Je ne suis pas une professionnelle de la petite enfance. Ici, je pose toutes les questions que l'on peut se poser en tant que parent, dans la vie de tous les jours, et je te transmets les réponses des professionnels que j'ai la chance de rencontrer. Et oui, je suis maman de deux filles de 8 et 5 ans et demi, et belle-maman de deux ados de 11 et 16 ans. Alors des questions, j'en ai eu et j'en ai encore beaucoup. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon. Pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 50e épisode, je reçois Lucille Vatrin, thérapeute spécialisée petite enfance et accompagnante en parentalité, pour revenir sur le lien d'attachement. En effet, ce thème a déjà été abordé avec Elodie Emo dans l'épisode 50, que vous pouvez retrouver sur votre appli de podcast préféré, sous l'angle du lien entre attachement et peur de l'abandon. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on détaille comment se construit le lien d'attachement, à quel moment de la vie de l'enfant, mais aussi l'évolution de ce lien tout au long de notre vie. Lucille nous explique le lien entre sécurité émotionnelle, exploration du monde et décharge de fin de journée. Elle revient sur l'importance de prendre soin de soi individuellement et en couple pour pouvoir répondre aux besoins de son enfant. Enfin, elle nous déculpabilise pour sortir du parent parfait et revenir aux parents dans la vraie vie, car trouver le bon équilibre entre répondre aux divers besoins de notre bébé et notre propre santé mentale et physique, tout en prenant en compte le travail, la fratrie, la charge mentale, etc., ce n'est pas simple. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lucille.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Merci à toi pour l'invitation. Je suis honorée de prendre la parole avec toi sur ce super podcast.
Ben, merci beaucoup. Moi, ça me fait un peu bizarre. Je n'avais pas enregistré depuis des mois, donc je suis ravie de retrouver mon micro.
Une belle rentrée pour toutes les deux.
Exactement. Avant qu'on commence et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, parce qu'avec toi on va parler attachement, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, quelle est ton activité, quel est ton parcours s'il te plaît?
Alors je m'appelle Lucille Ouattrin, j'ai 32 ans, je suis en premier lieu maman de deux enfants et d'un bel enfant. Donc j'ai un beau-fils de 11 ans, un petit garçon de 4 ans et une petite fille de bientôt 18 mois. J'ai fait le métier à la naissance de mes enfants comme beaucoup de mamans. Et je me suis reconvertie dans l'accompagnement à la parentalité. Donc, on peut dire que je suis accompagnante en parentalité ou thérapeute spécialisée dans le domaine de la périnate et de la petite enfance. Donc, concrètement, j'accompagne des futurs parents et des parents dans la petite enfance. Donc, on va dire jusqu'à 7-8 ans pour tout ce qui est émotions, les changements de vie, donc les rentrées, les séparations, les problèmes de crise, de colère. Voilà, tous ces sujets et aussi la préparation du postpartum. Et je viens aussi souvent casser quelques mythes, ça c'est un peu mon symbole, casser quelques mythes sur les enfants autour de la tétine, du doudou et notamment de l'attachement, puisque c'est assez peu connu en France. Donc voilà.
Ok, effectivement, alors l'attachement, on en parle de plus en plus, mais c'est encore assez peu connu. Moi, j'avais déjà fait un épisode avec Elodie Emmo la saison dernière sur lien d'attachement et en particulier le lien avec l'abandon et le sentiment d'abandon. Donc aujourd'hui, avec toi, on va rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est que ce lien d'attachement, comment on le construit, etc. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'attachement? Qu'est-ce que c'est que ce lien d'attachement et à quoi ça sert?
Alors, le lien d'attachement, c'est au même niveau que manger, dormir, boire. On a besoin de cette sécurité émotionnelle pour survivre. Il y a eu des. Alors, ce n'est pas des études, mais aussi, il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années. On appelle ça le Spitz. C'est Spitz qui a fait ces études. Et il a remarqué que des enfants dans les orphelinats, malgré qu'ils avaient à manger, à boire, qu'ils étaient changés, vu qu'il n'y avait pas la possibilité de s'attacher à eux, d'être en contact émotionnel, de prendre soin d'eux sur tous les plans, et notamment cette sphère émotionnelle dont on va parler aujourd'hui, et que ces enfants n'avaient pas la possibilité de s'attacher à leur puéricultrice ou les infirmières qui prenaient soin d'eux, parce que bah, clairement, elles étaient beaucoup trop peu nombreuses pour s'occuper d'autant d'enfants qui étaient orphelins, ces enfants se laissaient au pire mourir ou alors étaient dans un état d'hospitalisme. Donc c'est vraiment devenait complètement voilà, des légumes, quoi. Enfin, c'était complètement. Voilà, ils se laissaient mourir. Donc ce qui montre bien que l'attachement, la sécurité émotionnelle, le fait d'être en lien avec son enfant, pas que pour le faire manger, dormir et boire, c'est essentiel pour la vie de l'enfant, en fait.
Ok, et ce que j'entends moi dans ce que tu dis, c'est que dans tous les cas, l'enfant il va s'attacher à quelqu'un, il va avoir ce qu'on appelle une figure d'attachement. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est, mais quel que soit le contexte, il va chercher de toute façon à avoir une figure d'attachement.
Oui, l'enfant a besoin de s'attacher, c'est un besoin vital, comme
Ok.
je le disais. Donc, il va s'attacher à la personne ou aux personnes qui vont prendre soin de lui dans les premiers mois, particulièrement la nuit, et ces personnes qui vont répondre à ses besoins. Il y a eu une expérience, un monsieur, alors j'ai plus son nom, mais qui avait fait ça avec des animaux, parce que les animaux aussi ont des systèmes d'attachement. Et cette petite oie qui était sortie de l'œuf et qui avait vu cet homme en premier, en fait, avait fait que le suivre. Donc elle s'était attachée à lui, et après ça avait été compliqué pour elle de s'attacher à quelqu'un d'autre de son espèce, parce que clairement c'était un peu particulier. Donc oui, les enfants vont s'attacher. Et alors le lien d'attachement, et c'est pour ça qu'on dit souvent le lien d'attachement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vient tisser progressivement, ça c'est pas du jour au lendemain dès qu'on est. Et donc ça met 9 mois pour vraiment s'ancrer en nous. Je mets 9 mois pour m'attacher à ma maman, à mon papa, à mon parent, à mon parent 2. Et c'est pareil pour le parent, en fait. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mamans qui viennent nous dire, bah, en fait, mon bébé est arrivé dans mes bras et bah, j'ai pas eu ce coup de foudre, ce coup de oh, ça y est, je l'aime de tout mon cœur. Non, parfois ça peut prendre du temps parce que bah, on ne le connaît pas, on a beau l'avoir porté, on ne le connaît pas. Et donc on vient au fur et à mesure tisser ce lien ensemble et on s'attache mutuellement.
D'accord. Et ça se construit à partir du moment où l'enfant naît? Ça commence plus tôt, ça commence plus tard? Quels sont les moments cruciaux, on va dire, où ce lien il prend tout son sens et où il se construit le plus?
Alors, les 9 premiers mois de vie sont essentiels pour la construction du lien d'attachement, les tout premiers mois tout particulièrement, mais le lien d'attachement commence dès la grossesse. Donc, ça commence à se tisser, il entend la voix, il s'attache, etc. Mais en tout cas, c'est tout particulièrement dans les moments d'interaction quand même. Et on a tous, moi j'aime bien prendre cette image de la balance, on a tous ce système d'attachement en nous, et c'est vraiment comme une balance, si vous voyez la balance de la justice devant vous. L'enfant a besoin de s'attacher, et si il n'est pas sécurisé émotionnellement, eh bien il vient s'activer, donc il se met en mode stress, donc c'est son cerveau archaïque, le cerveau du bas qui va prendre le contrôle, c'est là que nos enfants sont un petit peu compliqués à gérer, c'est là qu'on voit les crises et tout ça, et il vient éteindre un système qui est essentiel pour les enfants, c'est le système d'exploration. Et c'est un petit peu ce qui se passe, là on a vécu il n'y a pas très longtemps les rentrées scolaires, ou les périodes d'adaptation à la crèche ou chez les nounous, enfin période de familiarisation, et les enfants pleurent, donc ça montre bien qu'ils sont dans une situation un petit peu stressante. Et souvent, ils vont rester un petit peu en retrait et ils vont observer parce qu'ils ont besoin de se sentir sécurisés, de s'apaiser avant de pouvoir aller explorer le monde.
Et du coup, comment on fait alors, si on a envie de l'idée, c'est quand même, j'imagine, de construire un attachement le plus sain possible pour notre enfant. Comment on fait pour faire ça? Quels sont les gestes, les mots, les paroles, les éléments qu'on peut mettre en place pour le plus possible rassurer notre enfant dans les premiers mois?
Alors déjà, c'est essayer d'être en accordance émotionnelle. Ça veut dire comprendre l'émotion, le besoin de son enfant. Un enfant qui pleure dans son transat, et si je le prends dans mes bras, je dis « Ah, ben, tu as fait exprès, tu voulais que je te prenne dans mes bras. » En fait, non, un enfant qui pleure, c'est qu'il y a un besoin. Et parfois, c'est juste besoin d'être pris dans les bras. Oui, peut-être. Parfois, c'est un rot qui coince, un peu mal au ventre. En tout cas, c'est aussi répondre aux besoins de l'enfant. Et ne pas voir ces manifestations comme il veut m'embêter ou il fait exprès, etc. Donc l'enfant a besoin qu'on réponde à ses besoins voilà, de contact, de proximité, etc. Après, ça ne veut pas dire que si vous laissez votre enfant près parce que vous êtes en train de faire pipi, il ne va pas être sécurisé, évidemment. C'est juste que globalement, il faut répondre à ses besoins et qu'il ait voilà, cette contenance au niveau des parents ou d'autres personnes qui s'occupent de lui. Et il faut aussi que ce soit cohérent. Il faut que les réponses qu'on apporte à l'enfant soient cohérentes. Si un jour je lui fais un câlin quand il pleure, le lendemain je m'énerve, le surlendemain je me mets à hurler, le surlendemain je ne réponds pas, il va se dire, mais c'est bizarre en fait, les réponses qu'on m'apporte sont pas du tout cohérentes. Alors, il est bien évident que on a une vie de parents et que parfois on est un peu plus énervé que d'autres. C'est juste que globalement, on apporte des réponses qui sont cohérentes à notre enfant. Déjà, ça va lui montrer qu'en fait, en cas de problème, et le problème pour un enfant, ça peut juste être j'ai un rot coincé, hein, donc le curseur peut être très bas. Si j'appelle en tant que bébé, on répond à mon besoin. Donc, motion, mon besoin est important. Mon besoin, il vaut quelque chose, il a de la valeur et on y répond, en fait. Donc ça, c'est un des premiers points, c'est être cohérent, être constant et répondre aux besoins de l'enfant. Alors, comme je disais, on a le droit d'avoir une vie aussi. Et moi, j'ai deux enfants. Quand vous commencez à en avoir deux, quand vous changez la couche de l'un, l'autre crie, bah, il va attendre quelques secondes, quelques minutes, et c'est pas très grave, hein. Tout va bien. Après, il y a l'attachement se fait beaucoup la nuit. Donc c'est aussi les réponses pendant le sommeil. Donc ça veut dire que on ne laisse pas un enfant pleurer la nuit, ou en tout cas, on ne laisse pas pleurer seul. Un enfant, ça a parfois besoin de pleurer, et j'en parle pas mal sur mes réseaux sociaux. Parfois, un enfant a besoin de pleurer et il ne faut pas à tout prix vouloir lui mettre une tétine ou vouloir le faire taire. Mais en tout cas, on est près de lui et on entend qu'il a besoin d'être accompagné. Donc l'attachement, c'est aussi très important la nuit. Et si je peux rajouter, c'est aussi aller bien soi-même. Parce qu'en fait, l'enfant vient se connecter et vous allez vous connecter à votre enfant sur des sphères psychiques, sur des sphères émotionnelles. Mais si vous n'allez pas bien, si on reprend cette même balance et qui illustre vraiment très bien l'attachement, si je prends cette balance pour les adultes, parce qu'on a tous un système d'attachement de 0 à 99 ans, l'adulte a ce système d'attachement et si je viens être activée par X ou Y raison, ça va pas dans mon couple, j'ai pas de problème d'argent, j'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes avec mes enfants. Je suis activée et en fait, de l'autre côté, ma balance, je suis désactivée au niveau du caregiving, c'est-à-dire je prends soin de l'autre. Ce qui fait que si je suis activée pour X ou Y raison, je suis désactivée dans je prends soin de l'autre. Alors, il est évident que je prends soin de mes enfants quand même, qu'ils mangent, qu'ils vont bien, que je leur fais des câlins. Mais psychiquement, je suis quand même moins là. Je suis dans mes pensées, je suis un peu triste, etc. Et dans ces cas-là, c'est compliqué pour le parent d'être vraiment en accordance avec l'enfant. Et ce qui est essentiel de faire dans ces moments-là, c'est déjà d'en parler à l'enfant, quel que soit son âge. Bah, tu vois, là, c'est compliqué pour maman parce que bah, au travail, j'ai beaucoup de problèmes et mon chef, il est super relou. Donc, bah, c'est dur pour moi, mais ça ne te concerne pas en fait. Je ne suis pas comme ça à cause de toi. Je t'aime et je vais faire tout ce qu'il faut pour aller bien. C'est aussi si c'est des choses qui sont plus graves et qui méritent d'être accompagnées par une thérapeute, par une psy ou par même une psychiatre, bah c'est se faire accompagner et prendre ce temps en fait, parce que on a besoin d'aller bien. Alors on va pas toujours bien, on a toujours des choses qui nous traversent, on perd quelqu'un, on a des soucis, enfin bref, tu connais, je connais, c'est la vie.
C'est ça.
Mais en tout cas, il faut prendre soin de soi en tant que parent et savoir s'accorder ce temps et se dire, bon là, ça va pas trop. Et avant d'être dans j'en peux plus, j'hurle sur mes enfants, j'en ai marre, je les supporte plus, se dire, ok, là, je sens que c'est en train de. Le vase va déborder, bah, je les laisse une demi-journée chez mamie, chez tata, chez une assistante maternelle, chez une babysitter, quelqu'un en qui j'ai confiance et je vais me faire quelque chose pour moi. Ça peut être juste me reposer, ça peut être aller au spa, ça peut être lire un livre, en tout cas, prendre ce petit temps pour soi. Et c'est aussi hyper important de le faire en tant que couple, si on est en couple en tout cas, de s'accorder ces moments-là pour se retrouver, parce que vous êtes un peu les fondations de la maison, donc il faut que ça aille bien.
Moi, je trouve que c'est ça le plus enfin, le plus difficile en tant que parent. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu et que je le vis encore. C'est faire cette balance entre je prends soin de mes enfants et en même temps, à un moment donné, ça me saoule trop, quoi. Je le sens, c'est j'y arrive plus. Et je trouve que c'est hyper difficile de faire la bonne balance entre en même temps j'en prends soin et en même temps je peux pas tout leur donner parce qu'en fait sinon ça marche pas pour eux ni pour moi, quoi.
Bah c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de plus en pouvoir et peut-être mettre en place des rituels dans le couple ou personnel. Moi, je sais que je me suis récemment inscrite au sport, enfin, je fais de la danse. Et je sais que cette soirée, l'année dernière, j'ai géré tous les tunnels de la semaine. Mon mari rentre tard et clairement, j'en avais marre de gérer ces tunnels et de ne pas avoir une petite bulle d'oxygène dans la semaine. Donc, cette année, je disais que le mardi soir, je pars à 19h. Mon mari gère, et c'est mon petit temps où je ne m'occupe pas des repas, je ne m'occupe pas du bain, enfin potentiellement, parce que je l'aurais peut-être fait avant, mais en tout cas, c'est mon moment à moi où je sors de mon contexte. Ça, c'est pour moi. C'est aussi, parfois, il est 17h et je me dis, bon, je dois chercher ma fille, mais j'ai enchaîné toute la journée, bah, je vais m'allonger dans mon lit un quart d'heure et je vais lire. Ma fille, clairement, que je la récupère à 17h ou à 17h15, elle est bien, elle est chez la nounou, elle joue, elle est avec des copains, tout va bien. Bah, je me suis accordé ce quart d'heure et en fait je la récupère et je suis bien, je suis à mon plein potentiel entre guillemets. Et en tant que couple, je vous donnais un tips perso, on n'a pas le temps de se voir. Enfin, le soir, comme je vous disais, je mange avec les enfants, lui il rentre plus tard, donc je suis avec lui à table mais on ne mange pas vraiment ensemble. Le week-end, oui on est ensemble mais c'est quand même pas pareil. Donc on s'est dit, pendant les vacances on part avec nos enfants, on part très rarement sans nos enfants, voire quasiment pas, parce qu'ils sont encore très petits. Donc une fois par trimestre. Moi, je pose un jour, sachant que je suis indépendante, donc c'est assez libre. Il pose un jour en semaine. On dépose nos enfants chez la nounou et à l'école, et c'est notre journée. Parfois, on regarde des séries sur Netflix, hein. Mais on est juste ensemble. On fait des jeux de société. On va au ciné. On se fait masser. On fait pas forcément des trucs de fou qui coûtent un argent incroyable. Mais on est juste ensemble toute la journée et on recharge les batteries. Et après, on repart. On a l'impression qu'on a, vous savez, mangé une étoile dans Mario Kart. Quand on est au taquet, quoi. Donc, c'est important de s'accorder ça parce qu'après, vos enfants, ils le sentent bien. Et moi, je leur dis à mes enfants, là, c'est le moment de papa et maman et on en a besoin, en fait. On en a vraiment besoin. Donc, faut aussi le verbaliser quand ils vous gavent un peu trop. Ça ne veut pas dire que ça a marché, mais c'est important de leur dire, bah là, c'est le moment de papa et maman et on a besoin d'avoir ce temps-là tous les deux. Donc, joue un peu dans ta chambre.
Fous-nous la paix un petit peu. Bah ouais, et si tu me permets de reprendre cet exemple, tu dis que l'année dernière, par exemple, c'est toi qui faisais tous les tunnels du soir. Est-ce que le fait que ce soit toujours le même parent qui fasse ce type de moment avec les enfants, est-ce que ça joue sur l'attachement qu'ils ont vers le parent 1, vers le parent 2?
Alors, oui et non. Oui, il y a une figure d'attachement principale. C'est la personne qui s'occupe le plus de l'enfant dans les premiers mois. En France, en tout cas, au vu du congé maternité et du congé paternité, c'est souvent la maman. Bah parce qu'elle a plus de temps, parce qu'elle s'arrête plus, parce qu'elle prend plus le temps, parce que c'est souvent nous, il faut le dire, qui mettons nos carrières entre parenthèses pour s'occuper des enfants. Donc, oui, c'est la figure d'attachement principale. Après, les études très récentes montrent qu'il y a quand même, vu que les pères sont de plus en plus impliqués, ça tend à s'estomper et il y a moins ce côté maman vraiment first et papa, ou en tout cas parent deux, loin derrière. Mais oui, il y a quand même, enfin moi, il suffit, un des tests assez flagrants, c'est votre enfant tombe, vous êtes tous les deux dans la pièce, l'enfant va vers sa figure d'attachement principale, quasiment instinctivement. Et bah, moi, il vient de me voir moi, hein, donc. Et pourtant, mon mari, malgré qu'il ne fasse pas les tunnels, il est hyper impliqué, il fait beaucoup de choses à la maison. Donc, Oui, ça reste quand même prépondérant, mais ça tend à s'estomper avec l'implication des pères qui augmente dans certaines familles, en tout cas.
Oui, ok. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les familles, mais y a des moments où les enfants, ils rejettent l'un des deux parents. Ils veulent plus que maman ou que papa. Est-ce que ça a un lien avec l'attachement ou c'est autre chose?
Non, je pense que c'est des périodes où ils ont besoin de s'opposer, de dire qu'ils décident, où ils ont, oui, par exemple, en ce moment, clairement, ma fille voudrait que ce soit moi qui la couche. Bah, je ne veux pas la coucher parce que, en fait, elle dort mieux quand c'est son papa qui la couche vu qu'elle est encore allaitée. Donc, bah, elle pleure, mais elle est avec son papa, elle est en sécurité, elle est dans des bras remplis de bienveillance. Donc, en fait, comme je disais, bah, elle a le droit de ne pas être contente en fait. Elle a le droit de signifier qu'elle préférerait que ce soit maman, mais ce n'est pas maman. Donc oui, parfois, on va dire que j'accepte que ce soit finalement maman qui fasse ceci ou cela, mais non, ça n'a pas vraiment à voir avec l'attachement parce que parfois, ça va être plus papa que maman, plus maman que papa. Je pense que c'est plutôt une phase où ils ont besoin de dire, bah là, j'ai envie de décider, ou là, j'ai envie d'être avec maman et pas avec papa en fait. Comme vous, vous pourriez dire, bah là, j'ai envie d'être avec ma copine A et pas ma copine B. Bah,
Ok, ça marche. Comment je sais si mon enfant il est assez sécurisé? C'est une question qu'on se pose assez régulièrement, et en particulier dans les moments de rentrée où on a des enfants qui potentiellement pleurent beaucoup ou pas du tout. Est-ce qu'un enfant qui pleure beaucoup, c'est forcément qu'il n'est pas sécurisé? Est-ce que voilà, comment on sait qu'en gros on a bien travaillé?
alors, si on a répondu aux besoins de l'enfant globalement dans sa vie, si on a été en accordance, voilà, comme je disais au début, émotionnel avec lui, il y a peu de chances pour qu'il soit pas sécure, à moins d'un gros drame, mais bon, il y a peu de chances. Comment on le voit? Bah, c'est un enfant qui est heureux, en fait, qui explore. Un enfant sécurisé, il va explorer. Parce que comme je disais, si on reprend cette balance, si mon système d'attachement est désactivé, je peux explorer. Et quand l'enfant revient vers sa figure d'attachement, qui est son porte-avions, donc en fait on imagine le bébé, enfin, la petite fille, c'est un petit avion, elle part, elle explore, et quand elle est confrontée à une peur, à une faim, à une envie de dormir, elle va revenir sur sa figure d'attachement, qui est son porte-avions, pour se sécuriser. Si, quand elle revient, on ne répond pas à ses besoins, bah forcément, il y a deux choix possibles. Il y a soit elle va revenir encore plus souvent parce qu'elle se dit, maman répond une fois sur 12. Donc, si je viens 25 fois, bah, j'aurai deux réponses positives. Et donc, c'est des enfants qui vont solliciter, 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 et qui vont en fait être épuisants parce qu'ils vont sur-solliciter. Et moins je vais répondre, plus ils vont solliciter. Et donc, on est dans un cercle vicieux. Ce n'est pas les enfants sécures qui viennent vous voir 20 fois et dans la journée, et bon, c'est normal en fait, c'est juste des enfants. C'est vraiment, on est dans la sursollicitation perpétuelle. Ça, c'est les enfants, voilà, et eux ne sont pas sécures parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que quand on ne répond pas à son besoin, en fait, ou alors une fois sur 12, et donc il faut qu'ils sollicitent beaucoup pour avoir des réponses. La deuxième typologie, c'est l'enfant qui, quand il revient, on ne répond pas à son besoin. Donc, il se rend compte que le porte-avions, bon, son besoin à l'enfant n'est pas vraiment crédible, apparemment n'est pas entendable. Donc, bah, il arrête de venir. Et ça, c'est souvent les enfants très, 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 très sages, qui ne font jamais de colère, qui dorment super bien, qui ne font pas de vagues, qui ne vous sautent pas, qui jouent tout seuls, qui font pas de bruit. Par exemple, typique, vous êtes à l'apéro. Il vient pas vous embêter, ouais. Il vient pas renverser une coupe, quoi. Il vient pas prendre un bout de fromage. Non, non, il reste dans son coin. À 2 ans, c'est... Bon, il y a des tempéraments.
C'est assez rare.
Il y a des tempéraments. Il y a la couleur du tempérament vient aussi. Il y a des enfants qui sont un peu plus excités que d'autres. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de bouger, etc. Oui, mais il y a quand même aussi juste je suis un enfant et j'ai besoin de venir voir ce qui se passe. Les enfants trop sages, et j'ai été formée par le docteur Anne Reynaud, elle me disait, les enfants qui sont sollicitant la première petite fille qu'on évoquait, souvent eux, on les voit très vite en cabinet, et je suis la première à pouvoir vous en parler, parce que bah, ils sont chiants en fait. Ils sont
Oui, il nous
chiants tout le
épuise.
temps. Donc on va voir le psy, on va voir la thérapeute, parce qu'il y a un problème en fait. Par contre, les enfants sages, le souci c'est que bah, on ne les amène pas à eux parce qu'eux ils sont super. C'est vraiment l'enfant idéal dans la classe qui fait ses devoirs, qui bouge pas, etc. Et eux, pour le coup, on les voit en thérapie, mais plus tard. Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, puisqu'ils ont éteint leur machine à émotions, à besoins. En fait, ils ont mis un gros couvercle dessus. Non, en fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en colère. Tu ne peux pas être triste. Tu ne peux pas solliciter parce qu'en fait, toutes ces émotions et tous ces besoins ne sont pas entendables, ne sont pas légitimes. Et c'est problématique parce qu'après, on a besoin d'être en colère, en fait. C'est une émotion qui est nécessaire. Donc comment savoir si on a répondu à ses besoins globalement? Il y a peu de chances qu'il ne soit pas sécure. Le chiffre, c'est si je réponds à un besoin sur deux, enfin une demande sur deux, mon enfant sera sécure. Quand on commence à répondre et qu'on est dans une éducation plutôt sur le respect de l'enfant, on est plutôt dans les clous.
Oui, un sur deux, c'est pas non plus un sur, enfin, c'est pas toutes les sollicitations tout le temps, quoi. Ça nous laisse un peu de marge de manœuvre pour leur dire, écoute, là, maintenant, non, c'est pas possible, quoi.
Ouais, là, je fais à manger, je suis occupée. Là, bah, dans 5 minutes, j'arrive. Enfin, voilà, c'est normal, on a une vie. Après, ça dépend aussi du besoin, hein, évidemment. La nuit, c'est pas un sur deux, clairement. Il faut répondre aux besoins de l'enfant la nuit. Et par rapport aux pleurs de la rentrée, c'est pas parce qu'un enfant pleure qu'il n'est pas sécure, et c'est pas parce qu'un enfant pleure pas qu'il n'est pas sécure non plus. Ça dépend beaucoup du tempérament. Il y a des enfants qui vont pleurer beaucoup, et des enfants qui vont pleurer que la 2e semaine parce qu'ils se rendent compte que bah, ça se répète et qu'en fait, on va vraiment y rester à l'école. Donc, ça ne nous plaît pas vraiment. Il y a des enfants qui vont être très dans l'observation, ils vont pas pleurer, et puis finalement, ils vont pleurer en rentrant parce qu'ils vont avoir besoin de vider leur. Un peu de décharger. Et donc d'éteindre leur système d'attachement une fois qu'ils revoient leur figure d'attachement, que ce soit à papa, maman, mamie. Et là, le soir, vous vous retrouvez avec des enfants qui sont on fire, c'est super compliqué. C'est souvent ce qui se passe au mois de septembre et c'est normal. Voilà, ils ont été un peu activés toute la journée. Si je reprends mon image de balance, ils ont été activés toute la journée parce que bah, ils n'ont pas encore de porte-avions à l'école. Ils ne les connaissent pas. Comme je disais, ça met 9 mois à faire avec les parents. La maîtresse, il va falloir quand même quelques jours qu'il passe avec elle pour pouvoir s'attacher à elle. Et c'est pareil pour la puère ou l'assistante maternelle. Donc, il faut quelques jours. Donc, pendant toute la journée, il a un peu pris sur lui. Il était activé et c'était dur. Et quand il vous retrouve, en fait, hop, il est sécure. Et là, il faut qu'il sorte toutes les émotions et tous les besoins qu'il n'a pas pu sortir dans la journée parce qu'il n'était pas assez sécurisé. Et ça va venir. Si vous êtes en confiance avec l'école, avec la crèche ou avec l'assistante maternelle, il faut faire confiance et se dire qu'il va s'attacher à cette personne et il faut qu'il s'attache. J'ai pas mal de mamans qui me disent, oui, mais j'ai peur qu'il l'aime plus que moi parce qu'il... Mais non, en fait, il a besoin de l'aimer, de s'attacher à elle. Alors, il va l'aimer différemment que vous. L'attachement est en plus à décorréler de l'amour, mais en tout cas, il va s'attacher à elle et c'est hyper important pour son développement. Sinon, il ne peut pas pleurer.
Ok. Cette notion de décharge, j'aimerais qu'on revienne dessus parce qu'elle est hyper importante et elle est hyper difficile à gérer, je trouve, en tant que parent. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve avec des enfants quand on les récupère à l'école ou chez la nounou ou de chez papy mamie, on nous explique qu'ils ont été géniaux, merveilleux, ils ont été adorables et tout ça. Et nous, on les récupère et alors là, ça part en vrille, on n'arrive à rien faire, ça pleure tout le temps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et comment on fait pour le gérer en tant que parent sans perdre toute l'énergie qu'on a pu récupérer un peu des fois, par exemple, on part en week-end, on les a laissés chez papy-mamie, on s'est reposé, on se dit on est trop d'attaque, c'est trop bien, et on les récupère et ça explose direct et on a l'impression de perdre toute l'énergie qu'on avait regagnée. Comment on fait dans ces cas-là?
Voilà, il y a plusieurs petites astuces et aussi il faut. Déjà, la première, c'est de comprendre ce qui se passe dans son corps et dans sa tête pour ne pas se dire il fait exprès ou avec moi il est hyper chiant et avec ma fille mamie c'est un ange. Un enfant, comme je disais, il est en totale confiance avec ses parents. Il peut être lui-même, en fait. Vous savez très bien que même s'il dessine sur les murs, même s'il renverse toute la table, même s'il casse toute la vaisselle, vous allez l'aimer inconditionnellement. Alors évidemment, ses grands-parents, j'ai envie de dire, c'est à peu près pareil. Mais non, pour lui, c'est pas... ses parents, c'est vraiment un amour inconditionnel, un attachement qui est au-dessus de tout. Et ce qui se passe, c'est que même si mamie le garde régulièrement, même s'il est habitué à l'assistante maternelle ou même s'il commence à connaître sa maîtresse, toute la journée, il a quand même accumulé des frustrations, des besoins. Voilà, il a quand même été un petit peu activé et il n'a pas pu être vraiment lui-même. Et souvent, on voyait que ces colères qu'il fait avec vous, il ne les fait pas vraiment avec mamie. Tu disais, il ne les fait pas vraiment à l'école. Encore heureux. Donc, il accumule, il accumule, il accumule, il accumule. Et une fois qu'il vous voit, vous, et qu'il est en totale confiance, il dit là, je peux faire ce que je veux, entre guillemets, mais c'est pas volontaire en mode, ah, ça y est, c'est la Java, c'est maman, je peux faire ce que je veux. Non, c'est jusque-là, son système d'attachement se désactive et hop, il peut être lui-même en fait. Et donc là, il a besoin de décharger pour se retrouver à ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc c'est son niveau, voilà, le niveau de la mer où il est bien en fait. Donc déjà, partir week-end avec son conjoint, évidemment, oui, il faut le faire, juste dire que en rentrant, il faut vraiment être disposé à accueillir les émotions de son enfant et être prêt à se dire que ça va être génial les retrouvailles. Non.
Mais ça fait partie du deal quelque part.
Ça fait partie du deal. Et justement, bah, je répondais ce matin sur un groupe WhatsApp avec plusieurs mamans que j'accompagne sur plusieurs mois. Et elle me disait, je suis partie une semaine, c'est la première fois, c'est dur et tout. Je dis, bah, déjà, pars en te disant que quand tu vas revenir, ça va être compliqué.
D'accord.
Alors, l'idée n'est pas de le prévoir et en fait de faire en sorte que ce soit compliqué. C'est juste dire, ça va être compliqué, c'est la première fois que tu pars. Il est tout petit. Il est avec une personne qui ne le garde pas vraiment habituellement parce qu'il est que avec son papa, alors que normalement, il y a maman aussi. Donc, ça va être compliqué et tu vas gérer, en fait. Ça va le faire. Juste se dire que ce n'est pas de ta faute. Après, c'est compliqué de répondre, et je l'ai encore eu ce week-end, à la phrase « Oui, avec nous, il est beaucoup moins capricieux. Bah, » J'ai envie de dire bah, « Laissez couler. La justification ne sert à rien avec ce genre de personnes qui ne comprennent pas. Il ne fait pas exprès. Il n'est pas capricieux puisque avant 7 ans, le caprice, ça n'est pas possible. On accompagne. Voilà, c'est un choix d'éducation. On sait que c'est parfois compliqué et on sait que bah, quand on part un peu, bah, voilà. Et la rentrée, toutes les grosses étapes sont des choses qui insécurisent nos enfants. Donc forcément, après, bah, on a des moments de décharge.
Ok. On a beaucoup parlé de l'attachement, de savoir ce qui était bon, ce qui était sain, etc. Est-ce que ça peut arriver dans certains cas qu'il y ait un attachement qui ne soit pas sécure et qui ne soit pas sain, mais qui est quand même un attachement?
Ah, les enfants s'attachent, forcément.
De toute façon.
Après, comme je disais, ça peut être ambivalent, ça peut être... ça peut être... Alors, ça, quand c'est insécure, on tombe dans des pathologies. Donc là, c'est plutôt des psychiatres qu'il faudrait en parler. Mais l'enfant s'attache. Après, l'attachement n'est pas toujours sécure. Comme je disais, il peut être ambivalent, il peut être ambivalent résistant. Ça dépend de comment on a répondu aux besoins de l'enfant. Le cerveau est malléable. Donc, ça veut dire que ce qu'on a vécu dans la petite enfance vient teinter notre vie. Mais si, à un moment donné, dans notre parcours de vie, on tombe sur des personnes qui nous sécurisent, ça peut changer la couleur de l'attachement. Donc, c'est important de se dire que ce qui est... c'est déterminant, ce qu'on vit dans la petite enfance, mais ce n'est pas déterministe. Ce n'est pas à tout jamais, en fait, je suis ambivalent résistant et toute ma vie, je serai insécure. Non, c'est différent. Et c'est important de le savoir parce que 80% des systèmes d'attachement des mamans se traduit sur les enfants. Donc, si nous, on a eu une enfance compliquée, qu'on a été maltraitée, qu'on a vécu des gros traumatismes, qu'on n'a pas eu ses parents, enfin bref, j'imagine des cas vraiment extrêmes, et qu'on n'est pas forcément très sécure, qu'on est en résistant ou qu'on est juste ambivalent, bah, c'est pas forcément ça que va vivre votre enfant, en fait. Vous avez pu sûrement, et si vous êtes là, avec la résilience, avec le travail que vous avez pu faire avec des thérapeutes, en thérapie, etc., vous avez pu surmonter ça et créer un attachement un peu plus sécure. Donc ça se rattrape, en fait. Tout n'est pas joué.
Oui, donc en gros, ce que tu dis, c'est que même si les 9 premiers mois de la vie sont hyper importants, c'est pas parce que dans ces 9 premiers mois de la vie et même au cours de l'enfance, il se passe des événements qui peuvent modifier un petit peu les liens d'attachement et pas forcément tout être parfait, parce que en vrai, jamais rien n'est parfait. C'est pas ça qui fera que tout sera une catastrophe toute la vie, quoi. On peut ça, toujours exactement. Revenir là-dessus et remodifier et retravailler et réaménager les choses, quoi.
Exactement. Après, ce sera plus compliqué que de faire bien à la base. C'est un peu comme réparer une maison qui aurait des problèmes de fondation. Il est quand même plus simple de faire des fondations solides et que la maison tienne bien plutôt que de réparer des fondations qui seraient bancales. Mais c'est possible.
Ok. J'ai une dernière question et c'est notamment lié à ça. Qu'est-ce qui se passe en termes d'attachement et de lien d'attachement quand il y a des événements familiaux, notamment majeurs? Je pense, ben, moi j'ai perdu ma maman il y a pas longtemps, je sens bien qu'il joue des choses. Il y a des enfants qui peuvent être malades, on peut perdre un enfant, un frère, une sœur pour les petits. Qu'est-ce qui se joue chez eux? Qu'est-ce qui se joue chez nous? Et comment ça se traduit dans ce lien d'attachement et dans le comportement des enfants à ce moment-là?
Alors, tous les événements que tu as évoqués, et même des événements, j'ai envie de dire, un peu moins graves, un peu moins importants, ça fait des traumatismes dans la vie de l'enfant. Et on ne peut pas éviter à un enfant d'avoir des traumas. C'est comme ça. L'idée, c'est juste d'entendre l'impact que ça peut avoir et surtout d'entendre l'impact que ça a sur nous. Alors, tu as perdu ta maman, on peut avoir des enfants qui sont malades, on peut, comme tu disais, perdre un enfant aussi. C'est-à-dire que forcément, si je reprends cette balance, et c'est hyper important de l'avoir à l'esprit, là, ta balance en tant que maman qui a perdu sa maman, bah, elle est hyper activée. Bah, parce que c'est normal, j'ai perdu mon papa, bon, je sais de quoi tu parles. Et donc, tu es activée, et donc psychiquement, il y a des choses que bah, tu n'es plus forcément en. Si je disais que tu étais connectée à 100% avec les enfants, bah là, c'est un peu plus compliqué en fait, parce que ton esprit, d'ailleurs. Qu'est-ce qui, j'ai envie de dire, c'est pas il faut, mais bah, prendre soin de toi, te faire accompagner en fait pour avancer sur ce deuil, pas rester seule si tu sens que c'est trop compliqué, et te laisser du temps et leur parler. Et pleurer devant eux, en fait, leur dire, bah là, je suis triste, j'ai perdu ma maman, en fait. Et c'est OK. Parce que tu as envie que demain, tes enfants, s'ils sont tristes, bah, ils puissent venir te dire, maman, dans une moindre mesure, mon copain m'a quitté, je suis triste, en fait. Et évidemment, les deux événements ne sont absolument pas comparables, mais juste l'idée que l'émotion, elle est légitime, quel que soit le degré de l'émotion. Et on a envie que nos enfants puissent venir nous voir pour ces sujets. Pour tous les sujets. Donc, bah, acceptons de nous ressentir ces émotions. Et le cerveau de l'enfant, c'est des neurones miroirs, donc il va voir ce que vous faites et faire la même chose. Donc, il a besoin de voir que maman est en colère, il a besoin de voir que maman a peur, il a besoin de voir que maman est triste. Et aussi joyeuse, hein, parce que c'est aussi cool quand même de faire la fête et d'être content. Mais en tout cas, il a besoin de voir ces émotions qui sont un peu moins acceptables dans la société. Donc, on est triste devant son enfant. Alors évidemment, si on est en dépression, on évite de pleurer toute la journée parce que là, pour le coup, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on peut expliquer à l'enfant qu'on est triste, on peut pleurer devant son enfant. Et si vraiment ça va pas, il y a des médicaments. Enfin, je veux dire, quand on est vraiment en dépression, bah, on se fait accompagner par un psychiatre et on se fait soigner et ça va mieux. Et si on parle d'une moindre mesure, eh ben, on se fait accompagner, on prend du temps pour soi et on explique à l'enfant que là, bah, le samedi matin, maman, elle va pas être là parce qu'elle a besoin d'aller faire son cours de yoga, d'aller voir sa psy, d'aller courir dans la forêt et de lire un bouquin et qu'elle en a vraiment besoin en ce moment. Et ça va durer 3 mois, mais elle en a besoin.
C'est vrai que souvent on a l'impression que pour que nos enfants ils aillent bien, il faut forcément faire comme si tout allait bien pour nous et pas leur montrer ben, que effectivement on est triste, on est en colère, on essaye toujours, enfin, on a un peu cette tendance à lisser nos émotions à nous pour que les enfants aillent bien. Et ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément ça qui est nécessaire, quoi.
Deux choses par rapport à ça, l'envie, comme tu dis, de lisser et de faire je vais bien, tout va bien. C'est premièrement, ils vont sentir que ça va pas parce qu'ils ont une intuition qui est beaucoup plus développée que la nôtre, puisque nous, on a tendance à mettre un peu un couvercle dessus. Donc, ils savent que ça va pas et ils pensent que c'est de leur faute si on ne dit rien. Donc, hyper important de leur dire ce qui se passe. Alors, on peut pas tout dire. Vous êtes harcelé, vous avez été agressé sexuellement, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, évidemment. Je vais pas bien. En ce moment, c'est compliqué pour maman. Voilà, on pose des mots qui sont à leur hauteur, évidemment. Mais en tout cas, on leur dit ce qui se passe. Et on leur dit que c'est un facteur externe qui fait que je suis dans cet état-là. Et deuxièmement, on a envie que nos enfants, ils viennent nous dire quand ça va pas. Et si on leur a montré que c'était possible de le faire, ils ne sauront pas que c'est possible. Donc quand ça va pas, on leur dit. Parce qu'on a envie que demain, moi j'ai vraiment envie que mon fils il vienne me voir et me dire oh là là, mais là, ça va pas dans mon boulot, je galère. Mais j'ai envie qu'il vienne me le dire en fait. Donc bah, quand ça va pas, je lui dis. Après, on peut, quand ça va pas et quand on a des gros moments comme ça qui sont compliqués en famille, un deuil, se raccrocher aux petites joies, ça peut être voilà, faire un petit cahier des moments sympas de la journée, essayer au dîner le soir si on a l'occasion de manger régulièrement ensemble, bah, ok, c'est quoi ton petit bonheur de la journée? Et essayer de faire de moments simples. Oh, bah, aujourd'hui, la maîtresse nous a laissé colorier à la fin, j'ai pu faire un super dessin avec une licorne. Voilà, mais c'était ton petit moment de joie et ça vient en fait éclairer des petites choses et essayer de, voilà, de s'émerveiller de choses un peu moins, un peu plus anodines, mais qui au final sont aussi très importantes.
Ok, ça marche. Bon, moi je l'ai expérimenté moi, mais j'ai la chance de faire un podcast où j'interviewe plein d'intervenants, donc j'apprends quand même au quotidien. Et typiquement, nous, sur les émotions, on en parle beaucoup avec les filles. Et j'avais fait un épisode sur la mort et la maladie en février. Donc, quand j'ai perdu ma maman, j'en avais déjà parlé. Et moi, j'ai dit à mes filles, je leur ai dit, ben moi, je vais pleurer. Mais c'est pas grave, c'est pas pour vous, vous faites comme vous voulez. Et je me suis aperçue qu'effectivement, ça m'arrivait de me mettre à pleurer. Et elles viennent me faire un câlin. Et je leur demande, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais est-ce que ça te rend triste que moi, je pleure? Elles me disent non. Juste, j'ai envie de te faire un câlin parce que tu pleures. Et elles repartent, quoi. Parce qu'effectivement, le fait de nommer les émotions et le fait de leur montrer qu'on a des émotions mais que c'est pas lié à eux, en fait, quand ils grandissent, après les miennes, elles sont plus grandes, elles ont 5 et 7 ans, donc ça fait longtemps qu'on fait ce truc-là, mais ça fonctionne en fait.
Tu mets aussi le doigt sur déjà comment toi tu les as accompagnées, c'est-à-dire que quand elles étaient tristes, tu étais là, présente, à reconnaître qu'elles étaient tristes, et ça te rendait pas forcément triste, mais t'étais là et t'accueillais leurs émotions. Et c'est aussi là qu'on voit la différence entre je suis attachée, je suis sécure avec mon enfant et je suis trop. Alors, c'est assez rare, mais ça existe quand même. Ou en gros, mon enfant est triste, je suis triste en fait. Non, il est triste. Ma fille, le soir, elle est triste de se coucher sans moi, plutôt en colère, je pense. Mais en tout cas, je ne suis pas en colère en fait. Je reconnais qu'elle a cette émotion, mais je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en train de fusionner avec mon enfant et en fait de m'approprier son émotion. Et c'est exactement ce qu'elles font, tes filles. Elles reconnaissent ton émotion, elles vont répondre à ton besoin, parce qu'on a toujours répondu comme ça quand elles étaient tristes ou qu'elles avaient peur, etc. Donc, top. Mais en même temps, elles n'ont pas fusionné avec toi, en fait. Elles ne sont pas « Ah, t'es triste, bah, je suis triste, en fait, et je me mets à pleurer. » Même si ça peut arriver, globalement, elles ont cette « Maman, c'est maman, elle a ses émotions, et moi, bah, je suis moi, et ce sont mes émotions. »
Ouais. Et ce que j'ai l'impression, mais bon, ça c'est un peu à part, mais l'impression que j'en ai, c'est que par exemple, pour moi, ça a été un peu une lutte de faire tout ça avec mes enfants. C'est-à-dire, c'était pas inné, parce que c'est pas l'éducation que j'avais reçue quand j'étais toute petite. Moi, ma maman, elle a commencé à faire un travail sur elle, j'avais 10 ans, donc après, ça s'est transformé, mais dans les 10 premières années de ma vie, j'ai vécu une enfance avec des violences éducatives ordinaires et un cadre qui est pas celui que moi j'ai donné à mes enfants, par exemple. Et donc, pour moi, ça a été une lutte par moment de maintenir cette bienveillance et tout ça. Et c'est hyper compliqué, hein. Ça me demande beaucoup d'efforts et tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, que pour elle, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus inné que ça ne l'était pour moi. Est-ce que ça, c'est une réalité?
Oui, c'est une réalité. Et j'aime beaucoup dire qu'on a chacun son chemin et chacun son point de départ. Et évidemment, dans la parentalité, hein, si je pars avec une éducation qui a été bienveillante, où on n'a jamais levé la main sur moi, où j'ai jamais été punie, bah c'est plus facile en fait. Alors c'est plus facile, l'enfant va toujours faire des colères et je serai toujours exténuée, mais en tout cas, au fond de moi, j'aurais pas envie de faire Bah non, en fait, ça va moins revenir, cette envie de jeter contre le mur, en fait, parce que des fois, on n'en peut plus. Ils sont tellement parfois durs avec nous qu'on n'en peut plus. Alors que si je pars, comme tu dis, j'ai subi des violences éducatives, voilà, tout ce qu'on peut vivre dans une éducation plus traditionnelle, enfin, en tout cas, malheureusement, traditionnelle, bah forcément, je pars de plus loin, en fait. Et j'ai déjà un gros travail de déconstruction à faire avant de pouvoir rentrer dans cette bienveillance. Et il y a des schémas qui viennent, qui remontent. Parce que c'est ancré en nous et qu'on ne peut pas tout gommer, en fait. Alors oui, pour ça, franchement, il faut se faire accompagner. Parce que tout seul, c'est quand même très compliqué. Et comme tu dis, c'est vraiment une lutte en nous. Je suis bien placée pour parler. Pour moi, ça ne se fait pas tout seul. Et les gros traumas... Je parle pas forcément d'abus sexuels ou de mort. Il y a des choses juste parfois être maltraité psychologiquement, ça fait des traumatismes. Bah, il y a des techniques, l'hypnose, le MDR, l'EFT, l'ICV, qui viennent réparer en fait. Et on en a besoin. Globalement, on ne reste pas tout seul.
Ok. Bah écoute, je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou un mot de conclusion à donner à la fin ?
Bah, merci. Merci de m'avoir donné la parole. J'espère que l'attachement va rayonner. Je voulais juste donner un petit exemple que je donne souvent en atelier et que j'aime beaucoup. C'est, on pense souvent que nos enfants font exprès de nous solliciter au moment où on est occupé, alors que 5 minutes avant, on n'était pas occupé. Et je donne souvent l'exemple de « je suis au parc », parce que c'est assez parent, sur le banc. Et mon enfant joue, tout va bien. Et puis à un moment donné, bref, il a un problème où il se fait chamailler, où il a perdu un truc. Et il va revenir pile poil au moment où mon téléphone sonne. Donc, je viens de décrocher, je suis au téléphone avec ma mère ou avec ma meilleure amie. Et là, mon enfant arrive. Et la chose que je vais dire, entre guillemets, instinctivement, c'est: mais tu fais exprès ou quoi? Il y a 5 minutes, j'étais pas en ligne et tu pouvais venir me voir. Et là, je suis au téléphone avec mamie et tu viens me voir. Enfin, c'est bon. En fait, non, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, il s'est rendu compte que sur le porte-avions, il y avait le téléphone. Et donc, il devait venir vérifier qu'en cas de vrai problème, pour lui, il pouvait compter sur sa figure d'attachement. Et vous pouvez transposer ça dans plein, plein, plein de situations, et notamment au sein des fratries. Vous prenez le bébé, et là, le grand se met à faire n'importe quoi, à monter sur la table, à jouer avec un couteau. C'est pas possible, il y a 5 minutes, tout allait bien. Bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le port d'attachement est pris par le bébé, et il se dit: ok, bah, il faut que je vérifie qu'en cas de gros problème, maman vient. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en danger. Comme ça, elle va forcément devoir venir. Il fait pas exprès, même si on pourrait croire qu'il fait exprès pour. Non, c'est juste que biologiquement, il a besoin d'éteindre son système d'attachement pour pouvoir explorer, pour pouvoir être sécure. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de changer de lunettes sur certains comportements de nos enfants.
Biologiquement, est-ce qu'on a une idée de l'âge jusqu'à quel âge ils sont dans ce test-là à peu près?
Bah, entre 5 et 7, il commence à être, ouais, plus vers 7 ans, à être plus dans l'âge où ils vont raisonner, où le néocortex est un peu mieux formé, donc c'est plus simple pour eux. Après, même tout petit, qu'est-ce que je dis à un enfant de 3 ans qui se met en danger? C'est: je suis là, en fait. S'il y a un problème, je suis là. C'est pas: tu fais exprès, tu m'énerves. Hein. C'est: ok, déjà, descends de la table, c'est dangereux, tu peux tomber, j'ai peur que tu tombes. J'ai vraiment peur que tu tombes, donc descends. Et je suis là. Il t'arrive quelque chose, je suis là. Je peux poser le bébé, là, il a besoin de manger, je m'en occupe. Mais c'est pas simple, hein. De toute façon, on n'est pas fait pour élever nos enfants tout seuls, et malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, bah, dans ces cas-là, on n'est pas beaucoup aidé.
Oui, et puis l'enfant, pour que ça rentre, il faut le répéter 50 fois. Donc, il va tester 50 fois et nous, ça nous fatigue.
Mais essayer de changer de lunettes sur le regard qu'on porte sur ces comportements qui ne sont pas. Il fait pas exprès, c'est biologique.
Ok. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup.
Merci Charline.
Cet épisode touche à sa fin. Si vous pensiez être les seuls à galérer, j'espère que vous avez pu entendre que pas du tout. J'espère aussi que cet épisode vous a donné quelques pistes. Pour retrouver les accompagnements proposés par Lucille, rendez-vous sur le site www.lucille-parentalité.fr tiré du 6. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de cet épisode. Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille, ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne? En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.